Très beau, très belle prédication. Tout à fait convaincante. Plusieurs choses. La statue la plus remarquable du Bernin, à la Villa Borghese, où j'étais récemment avec des amis ici présents, pour filmer cet incroyable aventurier des siècles, la plus belle à mon avis, qui est peu connue, s'appelle « La vérité révélée par le temps ». C'est une sculpture ahurissante, hein, où l'on voit une femme nue, renversée, écartant le soleil de sa main dans une sorte de rire qui peut être soit extatique, soit particulièrement débile, les deux à la fois, c'est une très ambiguë. Bernin est complexe, il est contradictoire. Il ne dit jamais une seule chose à la fois. Tournez autour de la statue de Louis XIV, vous avez 8 sculptures au moins, si vous voulez tourner. Ce dont il faut nous garder, c'est de la simplification dans ces choses. C'est complexe. Dès qu'on rassemble et qu'on simplifie, je ne sais pas, on a des intérêts bizarres. Vous parliez du fait qu'en effet, on ne parle plus de la résurrection, laissons les poils, laissons tout ça. Le Christ s'est exprimé d'ailleurs de façon très convenable sur ces questions, comme sur tout, parce que quand Dieu parle, il dit les choses les plus simples et les plus évidentes, combien il y aura de maris, combien de femmes, voilà. Vous aurez remarqué qu'on ne vous parle plus du tout de la résurrection, des corps, mais on ne vous parle pas du tout non plus, plus du tout non plus. Et ça, je trouve ça effroyable, de l'enfer. L'enfer, vous savez, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire Dante, dont je vous recommande la lecture, en même temps que Saint-Augustin, si vous voulez, mais un peu plus loin, parce qu'il faut traiter les choses historiquement. Voilà, alors l'enfer, le purgatoire, le paradis. J'ai cru remarquer que, étant le seul Français probablement qui ait lu à fond la Bible, j'ai fait trop peu d'hébreux, j'aurais dû en faire plus longtemps, étant le seul Français qui ait lu vraiment à fond Dante, sur qui nous pouvons parler très longuement, parce qu'il n'y a personne qui l'a lu en France, c'est dommage, hein, c'est vraiment effrayant. Je vous signale donc que dans la prédication doloriste chrétienne, il n'est plus question du tout de l'enfer, comme s'il n'y avait pas d'enfer, que l'enfer était vide et que personne ne méritait d'aller là. Là, en ce moment. Je trouve ça extraordinairement léger. Deuxième réflexion, vous parliez de Saint-Augustin. Alors, je vais vous dire une chose. Récemment, il y a eu un type qui a fait, d'ailleurs, traduire la Bible par des tas d'écrivains, il s'appelle Frédéric Boyer, vous êtes au courant?
Oui.
Il a fait traduire la Bible, comme ça, de chic, par une cinquantaine d'écrivains qui ont tous ajouté leur petite invention dans les traductions de la Bible, sans faire des mots, sans faire rien du tout. Ça donne un cafouillage total, on peut se demander pourquoi. Il y a mieux. Il vient de publier un livre, en même temps qu'il publie un livre chez Paul qui s'appelle « Les vaches », livre tout à fait digne de Paul, l'éditeur, hein, c'est-à-dire vraiment inutile, hein, totalement tocard. Mais enfin, c'est pas ça. Il a été loué partout pour avoir retraduit les confessions de Saint-Augustin en l'appelant « les aveux ». J'ai vu une presse unanime pour dire que c'était courageux, que c'était bien, ce qui prouve l'état d'ignorance générale, vous comprenez? On parle en terrain d'ignorance totale, il ne faudrait pas l'oublier, faire comme si chacun comprenait ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le cas. Donc, les aveux...
Le public aura rectifié de lui-même.
Oui, le public aura rectifié de nous-mêmes, il n'a pas le temps. Il vient ici, il est bien gentil de venir nous écouter, et il en tirera, je suis sûr, un très grand profit, mais il n'a pas le temps de comprendre dans tous ces détails l'histoire contemporaine. Moi, je suis un spécialiste, je vous communique mes informations et mon décryptage. Voilà, c'est gratuit. Donc, le problème, c'est que oser traduire, parce que on se croit autorisé à le faire. Qui autorise Monsieur Trucmuche à traduire de nouveau, en langage soi-disant moderne, les confessions de Saint-Augustin. Vous voulez qu'on parle de Saint-Augustin? Parlons-en tout de suite. Moi, je suis un grand lecteur de Saint-Augustin, et nous pouvons parler en latin si vous voulez. Le problème, c'est que cette traduction est effrayante, qu'elle a été unanimement célébrée par la presse, par le médiatique, sauf par quelqu'un qui porte un nom d'ailleurs bizarrement arabe, dans la quinzaine littéraire, qui a dit que c'était une ignominie, une imposture. Il faut le faire, dans cet endroit. Je n'ai pas vu un seul catholique s'élever dans la presse contre cette traduction. Et je vais vous en donner simplement un exemple. Parce que, un, il faut connaître le latin, deux, il faut connaître Saint-Augustin, trois, il faut connaître un peu la théologie, quatre, il faut connaître un peu l'histoire. Sans quoi, on ne va pas pisser sur les monuments, vous comprenez? Alors, vous trouvez cette formule qu'Augustin dit à Dieu, n'est-ce pas, qu'il pourra requiescat en lui. Il y a des catholiques ici, je suppose, qui ont un vague souvenir de ce que peut signifier le mot requiescat, requiescat in pace, par exemple pour les morts. C'est au courant, hein? Un peu. Voilà. Alors, un peu, je suppose. Ça veut dire ce requiesca in pace, ça veut dire reposer, n'est-ce pas? Il n'y a pas chipoter. C'est le repos en Dieu, le repos. Ça a été prononcé des centaines et des centaines de milliers de fois dans des liturgies partout, en catholicité, puisque ça se passe en latin, ailleurs aussi. Bon. Eh bien, M. Boyer, il s'appelle comme ça, il traduit ça par délasser. Je me délasserai en toi, mon Dieu. J'irai me délasser. Voyez-vous, je vais aller me délasser en Dieu, puis je ressors, puis je vais me délasser. Je pourrais vous donner 10 autres exemples aussi ahurissants de malveillance théologique, de volonté de contresens, d'adaptation à n'importe quoi de moderne ou post-moderne, peu importe, c'est une honte. Ça a été célébré unanimement. Voilà. Alors, vous l'aurez appris ce soir, parce que vous ne le saviez pas. Eh bien, c'est qu'on ne peut pas toucher à Saint-Augustin sans péril, si on le peut, puisque tout le monde est d'accord. Pour ne rien dire. Donc, ne me parlez pas de Saint-Augustin. C'est en cours de dévoiement et c'est à la rue. Ok? Mais avec une intention. C'est que je ne vais pas me reposer en Dieu parce que c'est souhaitable. Combien de gens se sont endormis dans cette perspective de reposer en Dieu, n'est-ce pas? Requiescat in pace.
Et tout, c'est dernier lucet ateis.
Continuez.
Non, voilà, oui, c'est ça. Non, c'est fini après.
Oui, c'est ça, voilà. Et puis vite, c'est fini vite, hein, parce que maintenant, vous savez comment le culte se passe, on n'accompagne plus au cimetière. Faire comme si nous ne vivions pas une crise, pas seulement de la religion, de Dieu, etc., mais une crise de civilisation énorme, avec un analphabétisme galopant, un illettrisme qui envahit tout, je vous donne cet exemple de cette traduction, entre guillemets, de Saint-Augustin aujourd'hui. Alors, si vous voulez, nous faisons une autre séance sur Saint-Augustin. Ensuite, vous avez évoqué en effet toujours cette question de la résurrection, de l'éternel retour. Et puis, vous avez été entraîné par définition, à dire des choses que je trouve erroné sur la gnose. Erroné. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la propagande séculaire et que nous devrions faire encore une autre soirée sur ces textes fondamentaux, notamment l'évangile de Thomas, il n'y a pas que celui de Philippe, il y en a bien d'autres, qui concernent évidemment le fait que si l'on comprend les paroles qui sont dites là par le Christ lui-même, enseignement secret, on ne goûtera pas à la mort, vous vous rappelez ça, vous l'avez lu. C'est comme ça pose quand même sur des questions tout à fait fondamentales. Hein, d'abord. Alors, écoutez, ça vient de paraître, vous allez vous procurer ça en Pléiade, il y a un volume extrêmement bien fait, il a fallu des siècles, du 6e au maintenant, pour que vous ayez enfin ces textes à disposition, et vous verrez que tout y est extraordinairement vivant, et pas publié n'importe où par n'importe qui. Alors, la question de l'éternel retour, c'est très simple. Ne chipotons pas. Voilà. Vous êtes là, et je vous demande, est-ce que vous revivriez votre vie intégralement, comme elle s'est passée, à jamais, oui ou non? C'est un test, c'est une sélection. C'est un événement de sélection. Excusez-moi, c'est beaucoup plus important que de dire, que de demander ce que vous croyez à la résurrection après votre mort. Moi, je vous demande si, là, tel que vous êtes, chacun avec notre corps vivant, respirant, est-ce que vous voulez, oui ou non, revivre éternellement votre vie telle que vous la vivez? Eh bien, j'ai fait un sondage. En général, c'est non. Ah non. Oh non, ce serait trop triste. Ah non. Ah non. Je ne suis pas digne de l'éternel retour. Voilà ce que j'ai entendu à longueur de temps. Si vous voulez en savoir davantage, il y a un livre de moi sans ponctuation qui s'écluse comme du saint Augustin moderne, qui s'appelle Paradis, et qui tourne entièrement autour de ça. Si j'avais le temps, je vous en lirai un passage sur ce sujet. Eh bien, la réponse est non. Comment voulez-vous avoir foi en quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait bien, après tout, la résurrection des morts, tout en disant qu'après tout, c'est une hypothèse, hein, puisqu'il faut passer par la mort physique, biologique. Enfin, j'aime bien votre truc sur les plaies, etc. Mais vous voyez bien que vous renforcez à nouveau tout le dolorisme en question, tel qu'il a été combattu pied à pied par la révolution catholique, qui a voulu rompre précisément avec ça pour célébrer la chair en tant qu'elle est là, en train d'être là et de se renouveler là, ici et maintenant, pour toujours, parce que Bernin c'est ça, il n'y a rien d'autre, vous ne voulez pas le voir, tant pis. Eh bien, je crois que là, la question est décisive. Oui ou non? Parce que résurrection des corps, moi je veux bien que des bras se lèvent. D'accord. En même temps, il y a l'hypothèse que c'est un mérite qu'on pourrait obtenir en passant par la souffrance, les plaies, la douleur, etc. Mais moi, je ne vous parle pas de mérite. Je vous parle tout de suite de la vision que vous avez de votre propre vie, minute par minute, jour après jour, la nuit par nuit, et est-ce que vous êtes là en situation de choisir pour toujours? Après tout, vous savez, on devrait continuer par le mémorial de Pascal. C'est-à-dire vraiment ce qui lui est arrivé et pourquoi il a cousu ça dans ses vêtements deux fois. Ce qui est drôle, parce qu'il aurait pu s'imaginer qu'il pouvait oublier cette expérience décisive. Je pense donc qu'il y a, sinon on bavarde, on écoute, on est dévot et on pense à autre chose, il y a une expérience décisive du divin, entre guillemets, que Nietzsche a très bien compris lorsqu'il parle du crucifié contre Dionysos, qui ne veut pas dire seulement un conflit, mais quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire le fait de naître au moins deux fois et de passer par la mort qui n'est pas un horizon définitif. Vous savez que c'est quand même dans une très grande tradition, à savoir qu'on peut vivre la mort dans sa vie, n'est-ce pas? Et que la mort n'est pas un événement si extraordinaire que ça. Je peux vous dire que je suis parfaitement mort en vous parlant. Voilà. C'est pour ça que ma parole a un certain poids.
Eh bien, des questions? Fabrice, juste avant de conclure, mais d'intervenir une dernière fois, vous parlez de résurrection des corps, M. Solaire, c'est vous-même, et en même temps, la définition... Enfin, quand on ressuscite, c'est pas juste le corps qui ressuscite, c'est je, c'est moi, c'est autrement
dit. Sûrement pas moi.
Justement, ça, c'est Bachir, c'est cette alliance en fait du. On distingue corps et âme, mais en théorie.
Oh, erreur,
c'est...
erreur.
Tout à fait, justement. C'est pour ça que quand vous parlez résurrection des corps, j'étais un peu étonné. C'est pas. c'est ma vie qui c'est ma vie qui ressurgit. C'est effectivement où je suis à la fois et corps et esprit, mais c'est cette unité qui est transfigurée. Donc
voilà, si
vous, pourquoi s'arrêter juste
du moins
à ce côté charnel.
Mais il n'y a pas à s'arrêter où que ce soit. Vous relisez, j'ai dit Pascal, bon. Alors, vous relisez quand même un texte qui, à mon avis, n'a jamais été bien lu, c'est-à-dire Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, ça vous dit à tous quelque chose, vous connaissez Rimbaud par cœur, c'est sûr. Bien sûr, comme Saint-Augustin. Alors, eh bien, vous lisez Une saison en enfer de Rimbaud, n'est-ce pas? Les dernières phrases sont les suivantes. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Il souligne, hein, avril-août 1873, il me sera loisible, alors c'est un long récit, hein, il faut voir de près ce dont il s'agit. Et il s'agit des choses les plus absolues du catholicisme, ou alors on n'y comprend rien. Il me sera loisible, le mot loisible est très intéressant. Il me sera loisible, hein, loisible, comme un loisir en somme. Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. C'est-à-dire de n'être pas possédé. Dans une âme et un corps. Pas de différence. C'est là où on sort d'enfer. Mais pour sortir d'enfer, il faudra encore savoir si l'enfer, on en parle ou on n'en parle pas. Donc si on ne parle plus de l'enfer, on ne sait plus comment en sortir. Donc on y est et on y reste.
Bon, je voudrais... Ça marche. Je maintiens la distinction de l'âme et du corps, hein. Je ne suis pas contre. Mais il faut bien voir, il faut bien distinguer la notion de corps, la notion de chair, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On peut parler de la loi de la chute des corps, n'implique pas forcément que ce corps soit vivant, qu'il soit animé. Et quand on parle de chair, donc on parle vraiment d'un corps animé.
Oui, Rimbaud n'a pas dit chair.
Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi cette synecdoque dans le christianisme, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, on ne parle pas d'inhumanation? C'est un mot que Facundius Dermian a essayé de mettre en vigueur dans la théologie catholique, et qui n'a pas marché.
Vous parlez d'être inhumé.
Non. Oui, mais c'est ça, voilà.
Oui, ça sonne. C'est une très, très mauvaise trouvaille, parce que ça fait penser à l'inhumation.
Voilà.
Voilà. En revanche, si vous me permettez de... C'est très important, mais vous pouvez parler tant que vous voudrez.
Voilà.
Sauf le lien signifiant qui s'annonce et qui est très important. Alors que Dante parle de trans humana,
voilà,
c'est-à-dire traverser l'humanité. Excusez-moi.
Donc
l'inhumation, en effet, c'est peu...
Ce qui est très étonnant, c'est que la théologie et l'écriture même a retenu le fait que le Verbe s'est fait chair, non pas qu'il s'est fait homme. Donc quand on parle de chair, on a un signifiant là, justement, qui est extrêmement fort et qui en plus est équivoque. Puisque le mot chair, parfois chez saint Paul, désigne non pas la chair elle-même, mais la chair en tant que marquée par le péché originel, et donc en tant que blessée, ça renvoie au fait de faire une seule chair, donc ça renvoie à l'acte charnel lui-même, hein, il s'est fait chair comme on fait chair, hein, et puis ça renvoie au fait d'assumer la nature humaine. Donc vous voyez, et ces trois sens, il n'y en a pas un seul à rejeter si on a assumé le